touche pas à mon schiste.
Christophe Brion.
Et Paul Renard.
Thierry Gauthier. Voilà, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous avec l'association du collectif 07, touche pas à mon schiste, c'est une des associations du collectif. Exactement. Avec toujours Christophe Léon, bonsoir.
Bonsoir.
Paul Renard, voilà. Bonsoir. Et on fait le point sur l'actualité des gaz de schiste, actualité qui ne cesse d'avancer et d'évoluer avec effectivement, comme vous dites très souvent, ni ici ni ailleurs, parce que on s'intéressera aussi ce soir finalement à l'exemple européen, parce que en Europe, pas qu'en France finalement, ça bouge également, il y a des protestations populaires et on a une stratégie qu'avait initiée la France finalement avec cette loi, mais qui va peut-être gagner d'autres pays.
Voilà, oui. Et on l'a déjà dit, on en a déjà parlé un peu, mais on voulait faire un point plus complet sur la situation en Europe. Et c'est vrai qu'on a vu que partout où il y avait des protestations populaires, systématiquement, les gouvernements reculaient, quoi, en fait.
Oui, c'est par le peuple. C'est par le peuple, en réalité, que ça démarre.
Voilà. C'est partout où il y a une prise de conscience citoyenne, on a une reculade des États. On rappelle, on en a déjà parlé qu'au Parlement européen, donc il y avait eu en avril une coalition de 40 ONG qui avait interpellé le Parlement pour lui demander d'interdire les gaz de schiste. On se souvient que le rapporteur du rapport qui avait été demandé l'eurodéputé polonais avait dit que l'Europe n'a pas besoin de nouveaux règlements, que l'exploitation du gaz de schiste n'est pas dangereuse pour l'environnement et qu'aucune interdiction ne pouvait être donnée au niveau européen. Donc, la situation dans les différents pays d'Europe. Donc, la Pologne, on le sait, donc les forages se poursuivent. C'est le principal partisan des gaz de schiste, avec quand même quelques contradictions, quoi. La Pologne, qui est le principal défenseur de l'exploitation, pourquoi est-ce qu'elle cherche à produire du gaz? Parce qu'elle est très dépendante de la Russie, en fait, on sait, pour le gaz.
Et pour le gaz, ça fait, voilà.
Et donc,
politiquement, elle voudrait
avoir son indépendance. Sauf que, les deux tiers des exploitations, des permis d'exploitation en Pologne ont été donnés à Gazprom, qui est la société russe.
Retour à la case départ,
voilà.
Quoi.
Voilà. Donc, ouais. Ça, c'est un petit peu contradictoire. Alors, en plus, ce qu'on sait, c'est que en Pologne, au départ, en fait, il y a quelques mois, il y a jusqu'à 6 mois en arrière, on disait que les réserves polonaises étaient de 5300 milliards de mètres cubes de gaz, en fait.
C'est précis.
Voilà. Entre autres, voilà. Les dernières informations qui viennent des foreurs, qui viennent pas du gouvernement, disent que vraisemblablement, elle ne serait pas supérieure, elle serait entre 350 et 770 milliards de mètres cubes.
Ce qui est, ça change tout. Mais ce que vous avez dit il y a très longtemps, c'est qu'il est très extrêmement difficile d'estimer finalement les réserves comme ça, in visu, voilà. même en fond, parce que ce ne sont pas des modèles homogènes.
Ce ne sont pas des réservoirs. Donc on ne sait pas. On sait que dans un bassin schisteux, on va pouvoir recueillir 20 à 30% seulement de la quantité de gaz présente. Et il est très très difficile, en fonction des failles, en fonction de la structure du terrain, de prévoir avant le forage proprement dit, avant l'exploitation, quelle sera la quantité.
Puis on a déjà parlé, je sais que la fracturation hydraulique crée également des fuites, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas tout, on sait pas la quantité qu'on va récupérer à chaque fracturation. Il peut y avoir le gaz peut se sauver ailleurs.
Il y a des fuites dans les failles, et puis il y en a une grosse partie qui reste à l'intérieur.
Oui, Christophe ?
Oui, je voulais apporter une précision par rapport à la façon dont pratiquent les foreurs. Ils surestiment systématiquement. On a la même chose en Angleterre. Il y avait une prévision de l'ordre de 2 ans pour la consommation, l'exploitation de gaz de schiste serait susceptible de subvenir pendant 2 ans aux besoins énergétiques de l'Angleterre, et on s'aperçoit maintenant que c'est finalement seulement 1 à 4% des besoins en gaz du pays. Voilà, donc systématiquement, ils pratiquent de cette façon-là, de manière à valoriser le permis.
Voilà. Le but, c'est d'en faire une bulle spéculative et de pouvoir revendre un permis beaucoup plus cher.
Et de justifier leur intérêt, quoi.
C'est bien une une bulle spéculative, c'est le terme pour du gaz.
Alors ailleurs, dans les autres pays, donc, on a la Hongrie. Alors la Hongrie a accordé donc des licences d'exploitation et d'exploration. C'est un pays qui est aussi favorable et dans lequel il n'y a aucune interdiction. La Roumanie et la République tchèque, eux, avaient choisi la même voie, c'est-à-dire qu'ils avaient donné des permis d'exploration et d'exploitation.
Les populations s'est opposées, je crois.
La population, ouais. Il y a eu de gros mouvements populaires et les deux parlements ont pris des mesures d'interdiction, quoi. Et la même chose en Bulgarie, en fait, qui a également interdit la fracturation hydraulique. Le parlement a pris une motion qui a interdit la fracturation hydraulique. Donc, on sent vraiment
une dynamique politique,
des populations qui fait que les gouvernements reculent.
Bah, c'est une grande leçon parce que finalement, on se dit que c'est les populations qui sont à l'initiative, qui vont à l'initiative de la réglementation sur les gaz de schiste.
Voilà,
c'est ça qui est étonnant d'ailleurs parce que finalement, l'expertise, elle est là, quoi.
Voilà. De la même manière, au Royaume-Uni, en Allemagne, où les travaux avaient commencé, en fait, les travaux ont été suspendus en attendant la conclusion de groupes de travail qui se réunissent avec des représentants de l'industrie, du gouvernement et des scientifiques. En Angleterre, on se souvient, on en a parlé ici, que les travaux ont été suspendus après qu'il y ait eu deux séismes consécutifs à la fracturation hydraulique. Donc, dans la plupart des autres pays d'Europe, en fait, qui sont ouverts à l'exploitation, on trouve l'Irlande, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et l'Espagne. On a un pays qui est un peu anachronique dans tout ça, c'est la Suisse. C'est la Suisse qui est neutre. Mais la Suisse, on sait que c'est une fédération, quoi. En fait, il y a un gouvernement fédéral, donc comme aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que chaque canton, chaque province prend ses propres décisions. Donc, en Suisse, il y a le canton de Fribourg qui a décidé de suspendre toutes les recherches, même la recherche, qui n'est pas le cas en France, par exemple. Et ce, pour une durée indéterminée. Alors que d'autres régions, comme le canton de Vaud, par exemple, où il y a eu déjà des fracturations, ils ont pour l'instant suspendu les travaux, mais ils n'interdisent pas la recherche.
Et par contre, ils ont une position qui est tout à fait opposée sur les permis français qui touchent justement Suisse aussi.
Alors, le problème pour eux, le principal problème, c'est les forages autour du lac Léman, qui est la principale réserve d'eau d'Europe, il faut le rappeler, quoi, quand même. Et donc, il y a quelques élus qui sont contre, mais il y a aussi des élus qui sont farouchement pour.
Vous voulez dire qu'on pourrait créer une gigantesque fuite du lac de Léman ?
Voilà. Et en fait, il y a la société la société suisse, donc qui Petroplus a demandé aussi, qui a un permis donc autour du lac Léman côté suisse, a fait aussi une demande de permis côté français au bord du lac Léman, et elle voudrait vraiment entourer le lac Léman.
Alors c'est vrai que ces nouvelles paraissent très rassurantes sur l'Europe, mais c'est pas pour autant qu'il faut, semble-t-il, baisser les bras, parce que du coup les pétroliers sont beaucoup plus motivés pour faire beaucoup plus
de lobbying
également, et comme créé ce qu'on appelle l'outil, la fabrication du consentement, qui se fait par les médias, qui se fait par les politiques, qui se fait par un tas de biais. On sait que l'énergie nous concerne tous, hein, le nucléaire est souvent passé comme ça aussi. Et les gens ont accepté le nucléaire par ce consentement également.
Voilà. Et là, en ce moment, le lobbying marche très très fort et les foreurs dans la presse, dans les médias, sur Internet font un gros travail de lobbying et essayent de retourner la situation.
Alors, d'où l'importance également, comme on est encore en pleine élection, hein, après l'élection présidentielle, on a la législative qui arrive, hein, on a le gouvernement qui a été donc nommé n'est pas un gouvernement définitif tant que les législatives ne sont pas passées. Donc c'est vrai que vous recommencez la même démarche, la même stratégie, c'est demander finalement aux différents partis qui sont en présence aux législatives de se positionner de façon claire par rapport au gaz de schiste.
Voilà, donc on a envoyé un courrier, comme on l'avait fait pour les candidats aux présidentielles, un courrier à tous les candidats aux élections législatives. Donc sur la région, on a eu pour l'instant deux réponses, celle du Front de Gauche et du PS. Le Front de Gauche, bon, pas surprenant, la réponse est de la même veine que celle du candidat Mélenchon. Ils sont pour l'abrogation de tous les permis attribués, pour le respect de la charte de l'environnement, pour l'organisation d'un débat public, pour engager la France dans un processus de transition énergétique. Donc, pas de surprise, ils sont tout à fait en cohérence avec les demandes des collectifs.
Par contre, pour le PS, c'était plus intéressant.
Pour le PS, c'est plus intéressant parce qu'en fait, François Hollande n'avait pas été très très clair. On a vu qu'il en avait une réponse quand même très politicarde, on va dire. Il était contre, mais pas complètement, quoi, voilà. Donc, les candidats ardéchois, en fait, qui sont Sabine Buis, Olivier Dussopt et Pascal Terrasse, ont, eux, fait une réponse qui est quand même franchement plus... plus marqué, détaillé plus et plus marqué. Il faut se rappeler que ces trois députés faisaient partie des 100 députés qui ont déposé une proposition de loi au mois de mars l'année dernière qui était pour l'interdiction complète donc de la prospection et de l'exploitation.
Vous voulez dire que votre mouvement a plus d'accès par ces députés, par finalement le gouvernement d'IPS que par sur les députés comme M. Besson qui était absolument voilà, très favorable. Il l'a dit avant de partir. Hein,
donc voilà, pas, voilà,
il l'a rappelé avant de partir.
Il l'a rappelé avant de partir. Et en fait, on sait qu'il y a le groupe en fait des 100 députés PS qui avaient déposé cette proposition de loi au mois de mars dans ses cartons tout près pour la première séance après les législatives, si le PS sort majoritaire, une proposition de loi qui devrait régler le problème pour la France, c'est-à-dire une interdiction totale de la recherche et de l'exploration.
Parce que, rappelons, un des problèmes de la loi, c'est la possibilité de faire de la prospection à titre scientifique, mais qui recouvre finalement une prospection productive, où on peut vendre les produits de la production, et finalement c'est la faille de la loi qui a été sans doute voulue.
Voilà, et puis on interdit la fracturation hydraulique sans la définir.
Ouais, donc, c'est au pétrolier de définir ce qu'ils font. Finalement.
Donc le pétrolier, il n'emploie simplement pas le mot fracturation hydraulique, il appelle ça stimulation, il appelle ça acidification, et puis ça marche.
Et puis on autorise l'expérimentation et la vente du fruit,
tout à fait,
du produit de l'expérimentation. Donc c'est une,
c'est étonnant quoi.
C'est une exploitation déguisée.
Ça c'est étonnant parce que c'est comme finalement si Renault expérimentait des voitures et si ils vendaient leurs voitures expérimentales finalement.
Ouais,
ça
non,
revient
c'est
un
ça,
peu
c'est...
à ça.
Non, non,
ça c'est étonnant.
C'est une
manière.
Énorme arnaque quoi. En fait,
oui,
c'est vraiment.
Voilà,
c'est vraiment...
Ah ben,
on joue sur les mots, on joue sur les mots et c'est tout quoi. Mais on change rien.
Donc voilà, donc on suivra bien sûr, parce que les élections ne sont pas encore là, bon, et en vite, on aura un point, j'imagine, dans 15 jours, de nouveau, sur les candidats qui auront bien voulu répondre à votre demande. Alors en attendant, donc l'association Collectif 07 se structure, et alors met en ligne finalement un nouveau site internet, Rhône-Alpes, qui va permettre en une seule adresse de mutualiser tous les autres sites existants, hein, une sorte de lien entre tous les collectifs de la région. Chacun pourra trouver sur ce site celui de sa région, celui de,
voilà,
de son département,
voilà.
De son...
On en a déjà parlé ici. En fait, on travaille énormément en relation avec tous les autres collectifs Rhône-Alpes, avec les collectifs de tous les départements. Et en fait, on a pensé qu'il serait bien, pour simplifier les choses, plutôt que d'avoir des adresses de sites de partout, d'avoir une seule adresse. Alors, je vais déjà la dire. C'est www.sghds-ra.org. Donc, stop au gaz et huile de schiste, rhonalp.org. Ce site, donc, il mutualise toutes les informations des différents collectifs, mais en même temps, il regroupe toutes les adresses de tous les sites. C'est-à-dire que, si vous écoutez cette émission, que vous êtes en Isère, vous allez sur ce site, vous allez trouver l'adresse du site Isère. Si vous êtes dans la Drôme, vous allez trouver l'adresse du site Drôme, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est vraiment pour simplifier la diffusion de l'information.
Voilà, et que chacun trouve l'association qui est le plus proche de lui. Finalement,
voilà.
C'est aussi le cas pour tout ce qui est vigilance, les fameuses alertes. Hein. Donc, justement, si on parle d'alerte, ben, on parle du fameux VIA, Christophe, avec une réunion qui va se faire en Rhône-Alpes, parce que ce VIA, c'est le bras armé, en quelque sorte, du collectif. Hein. C'est celui qui permet de...
Oui, alors bon, cette VIA maintenant, donc qui a été initiée en Ardèche. Maintenant,
rappelons VIA, les termes VIA.
VIA, donc vigilance, information et alerte action. Donc bon, cette VIA dont on a parlé plusieurs reprises ici, elle a été initiée, c'est vrai, en Ardèche, et maintenant elle se généralise. Au niveau Rhône-Alpes, on a une prochaine réunion.
Dimanche 27,
le week-end de Pentecôte, en fait. Hein. Donc, bon, ça va être une réunion très technique qui va consister à monter sur la région ce principe de vigilance.
Voilà, ce qu'il faut rappeler, c'est que...
D'intervigilance,
En Nord-Rhône-Alpes, donc on a le permis de Moussière, on en a largement parlé, sur lequel des travaux risquent de démarrer dès le mois de juin. Donc les départements du Nord-Rhône-Alpes commencent à être très organisés au niveau de leur VIA. Et là, en fait, cette réunion va regrouper les responsables de tous les collectifs Nord-Rhône-Alpes pour vraiment finaliser cette forme et cette veille.
Oui, c'est ça.
Alors cette VIA, elle ne travaille pas que sur l'Ardèche, elle ne travaille pas que sur Rhône-Alpes, elle existe donc sur toute la France, elle se transforme maintenant, elle s'élabore sous forme d'une viande, donc VIA nationale, et elle commence à porter ses fruits. On a reçu il n'y a pas longtemps des informations qui viennent de Lorraine, où un projet de sondage de recherche de gaz de houille doit débuter dès l'automne. Donc on est informé maintenant, ça se passe aussi ailleurs, hein, dans d'autres régions de France. Maintenant, on commence vraiment à collecter toutes les informations grâce à ces VIA et cette viande, donc VIA nationale.
Non, je voulais faire un mauvais jeu de mots sur les gaz de houille, excusez-moi. On n'osera pas. C'est des gaz qui font mal, en tout cas. À propos de rire et voilà, effectivement, on a toujours un côté... côté des fois cynique, hein, un mot obligé sur les gaz de schiste, parce que c'est quand même un sujet très important et qui pourrait rendre la vie vraiment beaucoup plus difficile dans nos régions. Néanmoins, on a toujours des moyens différents de sensibiliser les gens et d'informer les gens finalement sur ces problèmes de gaz de schiste. Ben, c'est un jeu qui a été créé par des jeunes, le jeu de 666 pieds sous terre.
Voilà.
C'est une sorte de jeu de loi finalement.
Voilà, 666 pieds sous terre. En fait, c'est un jeu coopératif, quoi. Le jeu coopératif, c'est un jeu où tous les joueurs sont ensemble et s'unissent pour gagner, quoi, en fait. Donc c'est un jeu qui a été inventé par deux personnes, François Moulin et Sébastien Bailly, qui ont créé ce jeu de société. Ce jeu, donc, on peut le trouver sur le site du collectif 07.
On peut le télécharger et voilà, le découper.
Stop au gaz de schiste, tout attaché, 07.org. Dans la rubrique boîte à outils communication, il y a ce jeu, on peut le télécharger, il y a toutes les fiches qui concernent ce jeu, la seule chose qu'il faut, c'est acheter un dé à 12 faces. C'est la seule dépense qu'on aura. Et ce jeu, il permet de donner de l'information, donner beaucoup d'informations sur les gaz de schiste. Voilà.
Un dé à 12 faces? C'est comment ça?
Un dé à 12 faces, oui, ça existe dans beaucoup de jeux. Oui.
D'accord.
Dans tous les jeux de rôle, en fait, il y a ça.
Bon, alors on va aussi parler effectivement après ce jeu de rôle, la création du collectif valentinois, hein, c'est pas long parce que on est écouté, l'émission Touche pas à mon schiste, hein, est écoutée dans la Drôme, elle est écoutée en Haute-Savoie, elle est écoutée dans l'Isère, l'Ardèche,
le Gard
également. Et puis, elle est également téléchargée pratiquement 10 000 fois sur le site du collectif.
Oui.
Et donc, on a énormément d'auditeurs, aussi bien d'auditeurs de radio que d'auditeurs Internet. Merci à tous. Hein. Donc, Christophe, on part pas tout de suite. On parle effectivement de la création du collectif valentinois.
Oui, donc c'est tout près de nous, hein, à Valence. Donc, au 30 avril, s'est créé un collectif qui s'appelle le collectif anti-gaz de schiste du Grand Valentinois. C'est une bonne chose, hein, parce que ça manquait, hein, dans la Drôme. C'est important qu'on ait la création de ce collectif qui a l'air de vraiment très, très, très bien se structurer actuellement, qui a déjà donc programmé pour le 16 juin la tenue d'un stand au Festival Poétique à Montméran. Et d'autre part, qui envisage carrément de monter, participer à une grande manifestation qui a été envisagée le 14 juillet à Paris.
D'accord. Voilà.
Donc,
il
démarre très très fort.
Très très bien. Alors du coup, on pourrait parler également des prochains rassemblements, hein, parce qu'il y a toujours des calendriers avec des rassemblements. Le premier, c'est on revient pas du 14 juillet, mais un petit peu avant, hein, c'est celui à Aurel.
Voilà.
C'est la plaine d'Aurel, non?
Non,
c'est
non, pas Aurel dans la Drôme.
Aurel
dans la Drôme, donc c'est le collectif Drôme, Val-Drôme, qui organise cet événement, qui s'appellera Schiste alors. C'est un grand rassemblement festif contre le gaz de schiste qui aura lieu le 1er juillet.
Mm-hmm.
Donc un rassemblement avec des forums, des animations, de la musique, des produits locaux, des stands des associations, beaucoup de renseignements, beaucoup, en fait, ça sera en même temps une fête, quoi, avec vraiment beaucoup de groupes de musique, avec énormément de choses. On pourra s'informer, on pourra se divertir, on pourra manger, on pourra boire. Tout sera bien.
Et s'informer, effectivement, et puis, suivre un petit peu l'actualité. Et puis, deuxième rendez-vous, c'est dans les Gorges de l'Ardèche, dimanche 27 juillet également.
Voilà, alors dimanche prochain, ce dimanche.
Non, pas 27 juillet, donc 27 mai.
27 mai.
D'accord.
Dimanche 27 mai, il y a le trail des Gorges de l'Ardèche, donc un trail qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans les Gorges de l'Ardèche.
Un trail, c'est un trailing?
Un trail, c'est une course.
Une course, voilà.
Une course à pied. Voilà, une course à pied dans la campagne. Ce trail, donc, rassemble un cross, ouais, si vous voulez, voilà. ce trail, donc, amène beaucoup, beaucoup de monde à Saint-Martin. Et il y aura un stand gaz de schiste avec des distributions de gazettes, des distributions d'autocollants, avec un stand d'information où les gens pourront venir s'informer, pourront venir apprendre encore plus de choses et soutenir le collectif.
Parce qu'on a l'impression, il y a eu un moment où, avec cette loi, où les gens ont l'impression que le problème était réglé. Et puis, il a fallu du temps, semble-t-il, pour que les gens comprennent que rien n'est réglé. Et je pense que la présence de ces stands, systématiquement, l'information qu'on fait, les émissions, maintenant, les gens ont compris que c'est pas fini.
Voilà, les gens ont compris que c'est pas fini. Et en fait, ils sont même plutôt très en colère d'avoir été bernés à un moment. Et ce qui nous sert, presque.
Tout à fait. Oui, Christophe.
Oui, et j'ajouterais que c'est pas le moment de baisser les bras.
Non, tout à fait.
Parce que, effectivement, après les législatives, on peut espérer quelque chose, mais la mobilisation populaire sera le moteur d'une nouvelle loi, éventuellement. Ça ne va pas se faire tout seul.
Oui, effectivement, ce qui est la stratégie intéressante, c'est qu'il y a eu les élections, effectivement, qui ont fait que ça a bougé aussi, hein, les élections ont bougé. Mais une fois que les élections seront passées, qu'est-ce qui restera? La mobilisation populaire qu'il y a eu au départ, finalement. C'est celle-là qu'il ne faudra pas perdre non plus. Voilà.
Exactement.
Parce que les politiques auront moins d'échéances devant eux et donc auront plus de recul.
Voilà. Et surtout, s'il y a des politiques qui ont l'intention de déposer une nouvelle proposition de loi, il faudra qu'il y ait derrière une mobilisation citoyenne importante pour soutenir cette proposition et pour montrer aux autres qui seraient pas trop favorables ou plutôt hésitants que la population est derrière et qu'il n'y a pas de choix et qu'il faut passer par cette proposition de loi.
Soutenir les initiatives. Voilà. Merci Christophe Léon, merci Paul
Reynard. Merci Thierry.
Merci Thierry.
Voilà, on remerciera David Ferry qui nous a aidé à mettre en route cette émission il y a plus de six mois maintenant avec le générique. Hein. Merci David et puis bonne suite dans vos projets professionnels. Merci à tous, c'est Thierry Gauthier.